Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 12h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Au Nord Kivu, des milliers de déplacés internes affluent au sud du territoire de Lubero, venant du territoire voisin de Walikale. Ils fuient la présence des hommes armés étrangers qui écument la région. Le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses et semi-précieuses est placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis hier ici à Kinshasa. Le parquet général près la cour d'appel de la Gombe reproche à Pascal Nyembo des allégations de fraude minière signalées et détournement de fonds publics. Notre invité, c'est le directeur provincial de la SNEL au Kassai central, Damas Moudipanou, reconnaît qu'en 2020, la SNEL a connu des difficultés liées notamment au vol des câbles et au manque du courant. Madame, messieurs, bonjour. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. Commençons au sud Kivu avec ce bilan revu du naufrage d'une pirogue motorisée à Calais, territoire situé à plus ou moins 40 kilomètres au nord-est de la ville de Bukavu. 56 personnes ont été sauvées alors que trois corps sans vie, dont ceux des deux enfants et d'une femme, ont été repêchés. Une vingtaine de personnes est toujours portée disparue. Les enquêtes s'attelle en ce moment à retrouver une copie du manifeste. Cela permettra ainsi de déterminer le nombre exact des passagers qui étaient à bord de l'embarcation. D'après les premiers éléments de l'enquête, cette pirogue motorisée était une petite unité de pêche qui n'était pas habilitée à transporter des voyageurs. Au Nord Kivu, un afflux de déplacés internes est observé au sud du territoire de Lubero. Des milliers de personnes arrivent depuis cette semaine dans plusieurs agglomérations et localités de Lubero en provenance du territoire voisin de Walikale. D'après la société civile locale, la présence des hommes armés étrangers dans cette partie de la province serait la principale cause de ces déplacements massifs. Les autorités locales se disent débordées. À Boutembo, Grâce Amzati.
Ce mouvement de population est observé depuis mardi. C'est notamment à Kanyabayonga, Kirumba, Kaina et dans d'autres agglomérations de la région. À Kaina, par exemple, Clovis Kanyaourou, bourgmestre de cette commune rurale, parle de plus de 400 familles déjà enregistrées. À Kanyabayonga, Daniel Sengemoja, président de la société civile, avance un chiffre provisoire de plus de 3000 familles. Ces personnes proviennent principalement de Buleusa, Rusamambu, Katekou et Bukumbirwa dans les territoires de Walikale, et Bunyatenge, Mboavinywa et Miriki dans les Lubero. La société civile de Kanyabayonga affirme que ces personnes fuient non seulement les exactions des Mai Mai NDC de Guidon, qui s'affrontent au FPP de Kabido depuis la semaine dernière, mais également que la présence des hommes armés étrangers est signalée dans les rangs de la milice NDC. L'administrateur assistant du territoire des Lubero, Marie-José Kavuo, confirme la présence de la milice NDC de Guidon à Miriki depuis mardi. Cette autorité affirme que les FARDC ont déjà été alertés sur ces faits. Pour ce qui est de l'assistance aux déplacés, elle indique que les plaidoyers sont en cours auprès des organisations humanitaires afin de leur venir en aide. Boutembo, Grâce Amzati. Radio Kapi.
Nord Kivu encore, les déplacés du secteur de Rouenzori, casés au complexe scolaire Virunga du quartier Mupanda, ont été assistés hier mercredi en vivre et en non-vivre. Les bienfaiteurs en ont profité pour appeler les autres à emboîter le pas vu la situation difficile de ces déplacés internes. À Beni, Marc Marofimbo.
Cette assistance composée des sacs de riz, des haricots, des bidons d'huile, des sels, des cartons de savon, des cartons de l'eau, ainsi qu'une quantité importante de sucre a été remise à une centaine de déplacés de plus de 50 ménages qui ont trouvé refuge dans l'enclos du complexe scolaire Virunga du quartier Mupanda. L'acte posé vient de l'un des membres de l'association Alliance de soutien à Félix Tshisekedi de Chilombo à Sofachi, une association des jeunes de la ville de Beni qui soutiennent les actions du président de la République. Damien Kamachi, président de cette association, a profité de cette occasion pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté à apporter aussi l'assistance à ces déplacés.
Mais avec de tels actes, peut-être il y aura encore d'autres personnes animées toujours de bon esprit pour leur venir toujours en aide. Donc celui qui nous a donné, c'est un quelqu'un qui a quand même donné quelque chose pour qu'on puisse quand même donner à un bon nombre suffisant parce que les vivres qui sont là, vraiment, ça doit aussi jouer un grand rôle à ces déplacés-là.
Par ailleurs, la protection civile dans la région de Beni s'active également avec les humanitaires pour voir comment assister ces déplacés qui tous demandent aux autorités de rétablir la paix dans leur région d'origine afin de leur permettre de regagner leur village en secteur de Wendjuri, devenu cible des attaques de ZDF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis la population, la société civile de Beni au Nord Kivu pense qu'il n'est pas opportun de demander à la population de payer les plaques d'immatriculation à l'heure actuelle. C'est au regard de la basse conjoncture du moment. Le président de la société civile condamne la manière dont les jeunes revendiquent contre le paiement des plaques d'immatriculation en barricadant les routes. Kizito Bin Angi pense que ces jeunes devraient plutôt réfléchir à d'autres stratégies plutôt que de paralyser les activités de la ville. Il l'a dit à Guylaine Kassassia.
La société civile avait refusé l'option de procéder au bouclage des motos pour recouvrement forcé des plaques d'immatriculation, parce que nous avions réalisé qu'il n'est pas opportun de procéder à ce bouclage compte tenu de la situation socio-économique et sécuritaire qui est précaire à Beni. C'est pourquoi la société civile avait demandé au gouvernement provincial de procéder d'abord à une sensibilisation intense avant d'entamer les recouvrements forcés. Les revendications sont légales et constitutionnelles. Ces manifestations sont mieux lorsqu'elles sont plus pacifiques. Et donc, ce que les jeunes ont en train de faire avec violence, nous ne sommes pas d'accord avec eux parce que les actions qu'on est en train de mener dans la ville empiètent, violent également les droits des autres. C'est pourquoi nous demandons aux jeunes de définir d'autres stratégies pacifique a envie de revendiquer certains droits.
Et sur place à Beni, c'est aujourd'hui, jeudi, le deuxième jour de manifestation de colère de jeunes, des mouvements citoyens et autres groupes de pression de la place. La rue commerciale de Matongé a été de nouveau envahie par les manifestants qui y ont déversé du moellon. Ils réclament la libération de leurs collègues qui sont détenus à la prison centrale de Gaboyi pour diverses infractions depuis le mois de décembre dernier. Ils contestent également la décision des autorités locales sur le bouclage des motos qui n'ont pas les plaques d'immatriculation. Avec professionnalisme, la police nationale a pu disperser les manifestants sans incident. Plus de 10 personnes ont été enlevées la nuit dernière et emmenées en brousse et plusieurs maisons incendiées par des rebelles ougandais de l'ADF au village de Batonga et Malibongo en chefferie de Banyali-Tchabi, territoire d'Irumu. Selon la société civile locale qui annonce la nouvelle, la Radio Okapi, ces rebelles sont visibles depuis 3 jours dans plusieurs localités. Ils récoltent des produits des champs des paysans pour leur survie. Cette structure citoyenne déplore l'absence des militaires des FARDC dans cette zone. Ils sollicitent l'intervention des autorités pour mettre un terme à l'activisme de ces groupes armés étrangers qui déstabilisent la région. Son président Raphaël Lingassa a été joint par Martial Kizabiamungu.
Il y a eu présence des ADF à partir du mardi jusqu'hier mercredi 6 où ils ont pris beaucoup de produits agricoles de la population et ils ont aussi kidnappé plusieurs personnes. Ils proviennent toujours du Nord Kivu et ce que nous demandons est qu'on puisse toujours renforcer parce que par exemple ici à Kabissi on donne un bataillon par exemple, ça pourrait couvrir tous les groupements. Vous voyez même si même à Vukaka, même à Tondoli, c'est tout un groupement, mais il n'y a pas de militaires. Mais si on donnait beaucoup de militaires dans la chefferie, ça pourrait permettre à fait qu'on puisse faire des déploiements dans des zones jusqu'à ce qu'ils puissent essayer d'arrêter ces expulsions multiples de ZADF. Depuis qu'on a commencé à plaider au gouvernement provincial, jusqu'à présent, il y a l'absence de militaires dans ce contrée. Ce contrée est resté tellement vide. Donc, et puis même si la population se demande pour y aller, il y a toujours des kidnappings. C'est parce qu'il n'y a pas la présence de FARDC là-bas.
On enchaîne tout de suite avec le Kasaï central où certaines communautés locales n'acceptaient pas la femme comme partenaire privilégié de l'homme. C'est le constat fait par une structure œuvrant en matière de droits de la femme dans son bilan dressé pour 2020. Le réseau des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme note plusieurs déviations dans la coutume au détriment de la femme, surtout à Kazumba et à Louisa. Le coordonnateur national de cette structure illustre cette situation par l'ampleur des mariages précoces et prénataux. Maître Félicien Matamachi est au micro d'André Kamalamoujanaï.
Le mariage précoce, c'est plus les territoires de Kazumba et les territoires de Luisa Kubaleko. On continue à enregistrer aussi les mariages prénatals. 14 cas ont été documentés dans les territoires de Luisa où on a doté dans des familles où les femmes étaient enceintes sans que les enfants qui seront nés connaissent les tenants des aboutissants. Et ces enfants-là seront obligés de contracter un mariage qu'ils ne connaissent pas l'issue. C'est inacceptable au 20e siècle de continuer à enregistrer certains habits qui sont des violations graves des droits de l'homme. Certaines femmes, même quand nous descendons dans des sensibilisations, disent même en Israël, il y avait des lois. Donc les femmes acceptent pareille attitude. Vous savez, même à Benamandé, si une femme ne peut pas se mettre une chaise quand il est en face d'un homme. Et la femme, quand vous dites non, si j'ai brisé ce principe, je vais payer une chèvre. C'est là que nous demandons l'implication de ces autorités-là pour qu'il y ait changement. Parce que c'est ancré déjà dans nos pensées. Ça prend aussi du temps pour que la situation change. Voilà pourquoi nous continuons toujours à sensibiliser.
Notez que le REFEDEF récolte toutes ces données grâce au comité d'alerte installé dans les groupements des territoires du Kasaï central sur financement du Centre Carter et Affaires mondiales du Canada. Autre nouvelle sur Radio Okapi, Pascal Niembo, directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses et semi-précieuses, est placé depuis hier mercredi soir sous mandat d'arrêt provisoire. D'après un directeur au sein du CEC, le parquet général près la cour d'appel de la Gombe qui l'a mis en détention, enquêté déjà depuis le mois de décembre de l'année dernière sur plusieurs allégations de fraude minière signalées et détournées de fonds publics au CEC. Et Radio Okapi enquête aussi depuis deux mois sur des allégations de fraude minière, mégestion et détournement de fonds au CEC et qui occasionnerait des pertes de plus de 3 milliards de dollars américains par an au trésor public depuis près de 10 ans. Michel Kifinangoy.
Reformé en 2011 comme établissement public, le CESC a pour mission de lutter contre la fraude minière. Il certifie tous les minerais afin de faire de l'or, du diamant, du cuivre et du cobalt le fer de lance de l'économie nationale. Malheureusement, près de 10 ans depuis la réforme de ces centres, le pays peine toujours à maximiser ses recettes en dépit de la croissance en production minière. D'après un mémo des travailleurs du CESC parvenu à Radio Okapi, le comité de gestion organise une fraude systématique, notamment par la sous-évaluation de la valeur réelle des minerais, occasionnant ainsi des pertes au trésor public de plus de 3 milliards de dollars par an. Se confiant à votre radio sous couvert d'anonymat, un directeur du CEC estime que cette fraude est favorisée par la modification frauduleuse en 2011 au niveau du journal officiel de l'article 38 du décret créant le CEC, ce qui a permis au directeur général de ses services d'exercer les prérogatives du conseil d'administration. Conséquence, personne au sein du système ne pouvait dénoncer la fraude fiscale au risque de perdre son emploi.
Merci Michel Kifinangoy pour ces précisions. Tous nos efforts depuis le mois de novembre 2020 pour faire réagir le directeur général du CEC se sont avérés vains. Cependant, dans une vidéo publiée ce jeudi matin dans les réseaux sociaux, le directeur général du CEC confirme son arrestation et explique les raisons avancées par le parquet général. Pascal Niembo dans cet extrait proposé par Michel Kifinangoy.
Je voudrais rassurer à tous mes frères et sœurs congolais que je suis interpellé ici au parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe depuis 17h. La question qu'on me pose, vous avez arrêté des fraudeurs en 2016, pouvez-vous nous en parler en 2016? On a fait arrêter des fraudeurs, la justice s'est saisie du dossier et ils ont condamné ce fraudeur-là. Mais on vient nous poser, nous, la question, si nous pouvons expliquer comment est-ce que ces gens ont été arrêtés par la justice. Aucune question sur le détournement. Je pensais qu'il y a un dossier sur le détournement de l'argent de l'État. Il n'y en a pas. Et on ne m'a même pas posé cette question-là. On me pose la question, comment est-ce que vous avez été nommé? Comment est-ce que le Premier ministre Mouzito a eu à signer le décret créant le CEC? Des questions liées à la présidence et à la primature. On vient me poser moi cette question-là.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Plus d'une année après l'éviction du gouverneur Lenge Masangu, la province du Olomami est dirigée par un intérimaire. Cette situation est décriée par les députés provinciaux. Ces derniers plaident pour l'organisation de l'élection d'un nouveau gouverneur dans le meilleur délai afin de permettre à la province de se remettre sur la voie du développement. Des précisions avec le questeur de l'organe délibérant du Olomami, Raphaël Yolo, a été joint par Jean Gandou.
On a fait des démarches jusqu'à Kinshasa, si on pouvait organiser cette élection-là. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore de suite, mais sinon, c'est là notre volonté. Un nouveau gouverneur, il a les atouts, mais un gouverneur haï est limité. Pour voter les budgets ici, il y a eu tant de problèmes, certains députés ne le voulaient pas, les autres, des tiraillements, c'est parce qu'il est haï, il n'a pas qualité. Donc, pour le moment, nous cherchons qu'il y ait un nouveau gouverneur full qui pourrait investi, alors qui pourrait former un gouvernement responsable avec deux ministres investis pour devoir mettre la province sur les rails. Que le gouvernement tâche de faire quelque chose. Nous ne pouvons pas croire que l'élection d'un gouverneur ici chez nous pourrait coûter très cher pour autant qu'il y a déjà les agents de la CENI sur le place.
Autre nouvelle en plus, bref, l'archevêque émérite Floribert Songa a été enterré hier mercredi dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Les hommages lui ont été rendus à l'occasion par les différentes notabilités de la province et d'ailleurs. Monseigneur Floribert Songa est mort à l'âge de 83 ans le 31 décembre dernier, emporté par la maladie. Pour la petite histoire, c'est le 11 juin 1998 qu'il est nommé archevêque de Lubumbashi par le pape Jean-Paul II, après avoir passé 24 ans à Kolwezi comme évêque. Il passe 12 ans comme archevêque de Lubumbashi. En 2010, il démissionne pour des raisons de santé. Il est remplacé par Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo le 30 janvier 2010. Il est le deuxième archevêque noir de Lubumbashi.
Actualité internationale.
Le Congrès américain a officialisé la victoire de Joe Biden à la présidentielle tôt ce jeudi matin. La session avait été interrompue pendant plusieurs heures après l'irruption des manifestants pro-Trump au Capitole et les scènes de chaos qui avaient suivi. Pendant ces temps, Donald Trump a finalement admis ce jeudi matin que sa présidence touchait à sa fin et a promis en même temps une transition ordonnée. En réaction, le président iranien a affirmé mais ce jeudi que la démocratie occidentale est fragile et vulnérable. Hassan Rouhani a mis en garde contre la montée du populisme après les troubles provoqués par des partisans du président américain au Capitole de Washington. Le premier ministre français se confiera à la presse ce jeudi après-midi à Paris pour tenter de donner le plus de visibilité aux côtés de son collègue de la santé publique sur l'évolution de la pandémie du coronavirus et ses conséquences. Restaurants, bars, stations de ski, salles de sport et autres lieux culturels pourraient voir leur fermeture prolongée en 6 mois. Le Matignon, le chef du gouvernement français, est devenu Monsieur Mauvaise Nouvelle.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur provincial de la SNEL au Kasaï central. Il reconnaît qu'en 2020, son entreprise a connu plusieurs difficultés. Celles-ci étaient essentiellement liées au vol des câbles électriques et au manque du carburant pour faire tourner son entreprise. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur Damas Moudipano.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle a été la situation de la SNEL au cours de l'année 2020 qui vient de s'achever?
Bon, la situation en général on peut dire elle était bonne puisque nous sommes arrivés jusqu'à à terme de l'année 2020. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu quand même de bonnes choses, il y en a eu aussi de mauvaises. Mais malgré ça, nous avons surmonté toutes les situations pour arriver jusqu'à la fin des années 2020.
Alors, quelles sont les difficultés que la SNEL a connues tout au long de l'année dernière?
En tout cas, l'année 2020 pour la SNEL Kananga, c'était une mauvaise année dans la mesure où nous avons connu des vols récurrents de câbles sur les réseaux, surtout dans les secteurs de Kananga 2, où nous pouvons comptabiliser aujourd'hui plus de 7000 mètres qui sont volés malgré tirer nos cris d'alarme auprès de toutes les autorités compétentes qui pouvaient nous aider à sécuriser tout cela. Donc jusqu'à ce jour, nous connaissons toujours des vols de câbles sur notre réseau. Et cela nous pose des préjudices pour alimenter nos abonnés qui régulièrement ils viennent maintenant réclamer le courant chez nous. La deuxième difficulté, c'est par moment, on manquait aussi des produits pétroliers. Ce qui fait que nos abonnés, il y a 2 mois, ils n'ont pas été bien servis. Voilà au moins les grandes difficultés que nous avons pu connaître pour l'année 2020.
Quel message lancez-vous à la communauté centricasaïenne par rapport au vol récurrent des câbles électriques?
Quand nous posons les canalisations, certes c'est pour certains réseaux SNEL, mais ces canalisations sont plus pour nos abonnés qui est la population. Et ce qu'on peut demander maintenant, c'est que la population se prenne en charge. Puisque quand nous implantons ces réseaux dans les secteurs, c'est pour que ces secteurs-là soient bien éclairés et alimentés aussitôt que nous mettons nos groupes en service. Mais il arrive que la même population néglige les réseaux que nous avons implantés dans leur secteur. Et par la suite, quand on a volé, ils reviennent maintenant chez nous pour demander comment ils peuvent être alimentés. Ça nous cause aussi des problèmes puisque c'est un investissement important que nous sommes en train de faire. Nous demandons à la population de sécuriser tous ces équipements que nous avons placés dans les différents quartiers. Ça, c'est la première des choses. Aux autorités, bon, ce sont les autorités qui doivent sécuriser les personnes et le bien. Donc, les réseaux là, c'est le bien de l'État. Nous demandons à ce qu'ils soient bien sécurisés et bien protégés et mettre hors d'état de nuire tous ces inciviques qui sont en train de voler les câbles que nous avons posés par-ci par-là dans les différents quartiers.
L'année 2020 n'a pas été rose pour la SNEL, comme vous le dites. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir en vue de l'amélioration de vos services vis-à-vis de vos abonnés en 2021?
Bon, pour l'amélioration de nos services, vous allez remarquer que sur les artères principales actuellement, si vous vous promenez la nuit, nous avons amélioré nettement l'éclairage public. Donc les artères principales de la ville de Kananga aujourd'hui sont très bien éclairées dès 19h jusqu'à 6h du matin. Et la deuxième chose, c'est que dans les perspectives d'avenir, nous sommes en train d'augmenter la capacité de notre production. Actuellement, la SNEL a mis à notre disposition les groupes qu'on est en train de placer pour que l'année, on puisse avoir une capacité suffisante pour alimenter même plus de la moitié de nos clients que nous avons aujourd'hui. Donc nous pensons que l'année prochaine, nous aurons une capacité suffisante pour alimenter plus les abonnés et réduire aussi les délaissages que nous sommes en train d'opérer sur les réseaux. Mais la SNEL avait un problème de production, c'est-à-dire la capacité de notre production était faible par rapport à la demande de nos clients. C'est ainsi qu'on nous a doté de 3 groupes électrogènes.
De quelle puissance?
De 800 kVA chacune, et ce qui fait environ 2400 kVA. Et si nous traduisons ça en mégawatts, nous sommes dans les 1.6 et 1.8 environ des mégawatts que nous allons ajouter sur ce que nous avons. Nous pensons que nous allons passer du simple au double. Et je crois que nous pouvons bien alimenter nos abonnés.
Monsieur Damas Moudipanou, Radio Capi vous dit merci.
Merci, monsieur le journaliste.
L'invité de Radio Capi que vous veniez de suivre, c'est Damas Moudipanou, directeur provincial de la SNEL au Kasaï Central, interrogé par Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.